12h30 sur France Culture, l'heure des informations. Antoine, merci, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La disparition d'un avion d'Égyptair qui reliait Paris au Caire. 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français. L'appareil s'est abîmé la nuit dernière en Méditerranée au large d'une île grecque. La thèse de l'attentat paraît la plus probable ce matin. Précision à Gérard Mohamed et analyse de Michel Polaco dans un instant. Les opposants à la loi travail maintiennent la pression suite de la grève des routiers et aussi à la SNCF. Nouveaux blocages et manifestations dans un contexte toujours très tendu. Manuel Valls appelle les syndicats à s'interroger sur la pertinence de certaines manifestations. Il se dit prêt en tout cas à lever par les forces de l'ordre les blocages des ports, raffineries et aéroports. Suivi d'Antoine Maret et analyse d'Annabelle Grelier. Le Premier ministre affirme par ailleurs qu'il convient maintenant de légiférer au sujet de la rémunération des grands patrons. Quelques heures plus tard, le ministre de l'économie Emmanuel Macron estime que ce n'est pas la bonne méthode. Commentaire politique de Stéphane Robert. Dans Libération ce matin, 40 personnalités lancent un appel pour demander au gouvernement précisément de légiférer sur le sujet pour que désormais en France, un patron ne puisse pas être rémunéré plus de 100 SMIC, soit 1,75 million d'euros par an. On sera en ligne avec l'une des signataires, la socialiste Karine Berger. À l'étranger enfin, le Premier ministre israélien qui est en passe d'élargir son gouvernement. Un accord serait proche avec Avigdor Lieberman, le leader du parti d'extrême droite Israël Beteinu, pour que celui-ci donc rentre dans la coalition gouvernementale. Dans la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Dans la dernière partie, on parlera dissuasion nucléaire avec Bruno Tertrais, le politologue qui publie « Le président et la bombe », c'est aux éditions Odile Jacob.
L'avion d'Égyptair avait décollé de Paris, 22h45, 66 personnes à bord, donc je vous le disais tout à l'heure, 30 Égyptiens et 15 Français notamment. Il a disparu des radars vers 1h30 du matin, il se serait écrasé en mer au large de l'île grecque de Karpathos, entre Rhodes et la Crète. Officiellement, aucune piste n'est écartée, mais il faut bien dire quand même que les circonstances du drame font plutôt penser à l'heure qu'il est à un attentat, à Gérard Mohamed.
Oui, aucune hypothèse privilégiée ni écartée, c'est ce que vient de déclarer à l'instant François Hollande. Aucune hypothèse écartée, y compris donc celle d'un attentat, d'un acte délibéré, même si pour le moment il n'y a aucun élément pour l'affirmer, il faut se contenter des faits, à savoir cet avion d'Égyptair qui décolle hier soir et qui est repéré ce matin près d'une île grecque, mais dans l'espace aérien égyptien. Entre-temps, rien, l'appareil a disparu des radars et c'est sur cet intervalle précis qu'on se pose des questions. Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, aucun message de détresse n'aurait été envoyé depuis l'avion, ce qui sous-entend, selon certains experts, un événement brutal et soudain qui ne laisse pas de temps à l'équipage pour signaler le problème, qu'il soit technique ou bien lié à une mauvaise météo. Or, la nuit dernière, la météo était bonne. L'Airbus A320 récent, il date de 2003, et les pilotes expérimentés. Alors oui, l'attentat est possible, une explosion à bord peut-être ou sinon, mais c'est sans doute moins probable, un tir de missile depuis le sol. Des pistes à envisager au vu du contexte aussi, on est proche de l'Égypte et pas loin de la Syrie. Et revenons aussi 6 mois en arrière, le 31 octobre dernier, un Airbus A321 qui transporte des touristes russes décolle de Sharm el-Sheikh en Égypte et explose en plein vol quelques minutes seulement après. 224 passagers à bord, 224 morts et un attentat revendiqué par la branche égyptienne du groupe État islamique. Alors depuis, les compagnies aériennes ont pris des mesures. Hier d'ailleurs, 3 agents de sécurité étaient présents à bord du vol d'Égyptair. Procédure courante, dit-on, mais pas de quoi garantir le risque zéro.
Gérard Mohamed, merci beaucoup et bonjour Michel Polaco.
Bonjour.
On va reprendre toutes ces hypothèses. Votre avis d'abord sur l'origine de cette catastrophe?
Très difficile de se prononcer sur une cause qui soit ou terroriste ou technique. Évidemment, l'avion a disparu de manière subite, donc il s'est passé quelque chose de brutal et sans doute de très destructif. Est-ce que cet avion est arrivé entier à la surface de l'eau ou est-ce qu'il est arrivé éparpillé? On ne le sait pas encore. Il faudra retrouver les débris ou l'épave. Une chose est certaine, c'est que le contexte et l'ambiance nous amènent évidemment à regarder avec beaucoup d'acuité la piste terroriste. N'oubliez pas que non seulement il y a le cas de l'avion de l'Airbus de Metrojet dont on parlait à l'instant, mais il y a aussi l'Airbus 321 de Dassault Airlines qui, entre Mogadiscio et Djibouti, a été victime d'une explosion d'une bombe en février dernier. On en a très très peu parlé parce qu'il n'y a eu qu'un mort et qu'il se trouve que le mort, c'était le terroriste qui avait emmené une bombe à bord, qui avait réussi avec des complicités au sol à introduire une bombe à bord. La bombe a explosé alors que l'avion était encore à basse altitude, ce qui fait que ça a provoqué peu de dégâts, simplement un trou dans la carlingue par lequel le terroriste a été aspiré et donc il a été la seule victime. On en a très peu parlé, mais néanmoins les Égyptiens, par exemple, en ont tenu compte et ont compris que le contexte régional était extrêmement chaud, d'où sans doute les 3 gardes du corps dans ce Boeing 737.
Alors, parmi la thèse de l'attentat, il y a trois hypothèses. D'abord, peut-être le missile. Là, ça semble exclu.
Non, ça ne tient pas la route.
Ça tient pas la route. Bon.
Non, parce que si vous voulez un missile, il faut un missile de croisière du type de ce qui a été utilisé en Ukraine contre le vol MH17, le Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Ça, c'est des missiles qui montent à 10, 12 000 mètres. Vous voyez. Alors, des missiles comme ça, en Méditerranée, il faut les tirer soit d'un bateau, soit d'une des îles proches. Personne n'en pose, n'en dispose dans ce point-là, sauf les Occidentaux.
Tout se passe à l'intérieur de l'avion à ce moment-là. Soit qu'il y ait une bombe, soit qu'il y ait un passager, voilà. Soit même que le pilote.
Voilà, exactement. Est-ce que c'est une intervention illicite à bord de l'avion ? Est-ce que c'est une bombe qui a été introduite avant et programmée, ou une bombe qui a été utilisée par un kamikaze qui se trouvait à bord ? Est-ce que c'est une tentative de prise de contrôle de l'avion avec une perte de contrôle de l'avion ? Ça, c'est pour l'instant impossible de le dire.
On va le savoir vite ?
On va le savoir pas si vite que ça, parce que vous voyez maintenant, comme le temps a passé, ça fait 10 heures, on n'a pas encore retrouvé l'épave de cet avion, ni l'endroit où il... Voilà. Donc il va falloir quand même retrouver l'endroit où il s'est abîmé. Ensuite, il va falloir faire venir sur place des bateaux pour localiser précisément l'épave, les boîtes noires, etc. Ensuite, il va falloir faire venir des sonars et des robots pour remonter les boîtes noires. Ensuite, il va falloir les analyser. Donc maintenant, on est dans un cycle de plusieurs jours, pour ne pas dire quelques semaines.
Voilà, donc on vous reverra sans doute prochainement.
Hélas.
Merci beaucoup, Michel Polacco.
Les opposants à la loi de travail maintiennent la pression suite de la grève des routiers et à la SNCF. Nouveau blocage et manifestation dans un contexte toujours tendu.
Le Premier ministre Manuel Valls appelle les syndicats à s'interroger sur la pertinence de certaines manifestations et se dit prêt à lever par les forces de l'ordre les blocages actuellement des ports, des raffineries et même de certains aéroports. Pas question de renoncer à cause des violences, répond le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez, selon qui on ne peut pas empêcher la démocratie de s'exprimer parce qu'il y a des problèmes en marge des manifestations. Les organisations appellent à manifester donc pour la deuxième fois en 48 heures et elles assurent que la mobilisation, loin de faiblir, va se poursuivre et même s'amplifier jusqu'au retrait du projet de loi travail. Annabelle Grolier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors on s'attendait plutôt au début de la semaine, disons, à un essoufflement de ce mouvement et c'est plutôt un pourrissement de la situation auquel on assiste. Quelles sont les stratégies de part et d'autre qui pourraient rendre compte de cette situation ?
Du côté des syndicats CGT et Force ouvrière, on estime que le match n'est pas fini. Expression utilisée ce matin par Jean-Claude Mailly chez nos confrères de France Inter. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement dit rester droit dans ses bottes. Ça peut changer, assure-t-il. Même ton pour le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. On lâche rien, pourrait-on résumer. Leur stratégie s'appuie d'une part sur l'opinion publique, qui est encore largement hostile à cette loi travail, et l'effet des convergences des luttes, comme avec les cheminots qui, eux, sont en grève essentiellement contre le changement de leur statut social. Et globalement, depuis le début, on espère du côté des syndicats un scénario à la CPE, c'est-à-dire le recul du gouvernement sous la pression de la rue à propos d'une loi après même qu'elle ait été votée. Mais aujourd'hui, ce scénario reste de moins en moins plausible. Le contexte est différent, post-attentat, état d'urgence et puis les acteurs aussi. Manuel Valls et son penchant sécuritaire face à un mouvement qui prend une tournure de plus en plus radicale au point de se demander si les syndicats contrôlent encore la situation. C'est en tout cas l'argument utilisé par le Premier ministre qui appelle les syndicats à prendre leurs responsabilités dans un climat de tension et de violence aiguë, pointant l'infiltration systématique désormais de casseurs dans les cortèges. Sujet délicat s'il en est, car les services d'ordre syndicaux eux-mêmes ont été la cible de ces violences. Du jamais vu, leurs services d'ordre ont dû s'armer de matraques pour se défendre ou protéger les manifestations. Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly ont dit leur inquiétude face aux violences, tout en rejetant eux aussi la responsabilité sur le gouvernement, car c'est en marge des cortèges qu'il y a des problèmes, disent-ils, et on voit bien que du côté des forces de l'ordre, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, qui joue le pourrissement, Antoine ? En tout cas, on joue bien sur un baril de poudre.
Annabelle Grolier, Manuel Valls a souhaité ce matin des sanctions implacables, a-t-il dit, contre les casseurs qui ont incendié une voiture, notamment de police, à Paris hier, en plein Paris. L'enquête vient de commencer, les interpellations ont eu lieu. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre, qui fustige donc des individus qui veulent se payer un flic, qui veulent tuer un policier. Selon le ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, quatre hommes, dont trois qui avaient fait l'objet d'une interdiction de manifester, ont été interpellés et placés en garde à vue. Et cette interdiction, on s'en souvient, avait été cassée par la justice administrative. Une nouvelle fois, on s'interroge, Antoine Maret, sur le fait qu'un groupe évalué tout de même à quelques centaines de personnes seulement ne puisse pas être aussi rapidement neutralisé.
Effectivement, il s'agit de groupes anarchistes violents, essentiellement des hommes jeunes, entre 15 et 25 ans, des Français Français, mais aussi parfois des activistes venus d'autres pays d'Europe, venus prêter main forte. Ils s'en prennent aux policiers, on l'a vu, parfois de façon très violente. Jet d'acide, envoi d'un objet incendiaire dans une voiture dans laquelle se trouvent deux policiers, coups avec des barres de fer, il y a la volonté de blesser et peut-être même de tuer. Les manifestants peuvent également être attaqués, ainsi que les services d'ordre des syndicats. Mais à la différence des émeutes que l'on a pu connaître en banlieue en 2005, ces violences obéissent à une logique politique. Car ces activistes sont anticapitalistes, contre toute forme d'autorité. Ils s'attaquent notamment aux symboles du capitalisme, comme par exemple des banques. Ils ont pu ainsi détruire des guichets sans chercher à les piller. Leur objectif, c'est la convergence des luttes. Et pour cela, tout symptôme d'affaiblissement du gouvernement est une opportunité pour agir. Le problème est désormais connu et pourtant ce genre de violence se poursuit. Les plus cyniques y voient une volonté du gouvernement de laisser pourrir le mouvement social. La réalité est sans doute plus banale. D'abord, ces petits groupes sont rapides. Ils communiquent facilement grâce aux SMS et aux réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus organisés. Ensuite, ils sont peu identifiables car ils se mêlent aux manifestants. Leur équipement, composé le plus souvent de masques de ski, de masques à oxygène, de capuches ou de foulards, est assez facile à transporter. Ils peuvent également les stocker dans des poubelles se trouvant sur le parcours de la manifestation, mais aussi s'en débarrasser rapidement pour ne pas être repérés. Difficile par conséquent de les distinguer des manifestants qui défilent pacifiquement.
Antoine Marette, merci.
Dans ce même entretien sur RTL ce matin, Manuel Valls affirme qu'il convient maintenant de légiférer au sujet de la rémunération des grands patrons car, je cite, « force est de constater que le patronat n'a pas respecté ses engagements ».
Et dans Libération ce matin, 40 personnalités, dont des responsables politiques et syndicaux, des intellectuels aussi, lancent un appel pour demander au gouvernement de légiférer effectivement. Et ils font la proposition suivante, que désormais en France, un patron ne puisse pas être rémunéré plus de 100 SMIC. Ça veut dire à peu près 1 750 000 euros par an. On va être en ligne dans un instant avec l'une des signataires de ce texte, la députée socialiste Karine Berger. Mais entre-temps, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est intervenu dans le débat et il estime, donc quelques heures seulement après que Manuel Valls se soit exprimé, il estime que la loi, ben finalement, ce n'est pas la bonne méthode. Monsieur Macron qui fait apparemment un pas de plus dans sa stratégie de la tension ou peut-être de l'autonomisation, Stéphane Robert.
Oui, là c'est flagrant. La rivalité entre le Premier ministre et son ministre de l'économie s'affiche de plus en plus au grand jour. Hier soir à Évry, à l'occasion de son premier déplacement à la rencontre des Français, Manuel Valls a laissé paraître son agacement en se moquant d'Emmanuel Macron. Il y en a qui veulent se lancer dans le porte-à-porte, a dit le Premier ministre, faisant allusion au mouvement En Marche, créé début avril par le ministre de l'économie. Mais nous, ça fait longtemps qu'on en fait. Et puis ce matin donc, c'est le retour de bâton, alors qu'une quarantaine de personnalités de gauche, vous le disiez, lancent un appel à légiférer sur les salaires des grands patrons et que Manuel Valls embraye en expliquant que oui, il faut le faire. Emmanuel Macron lui fait entendre sa petite musique. « Pardon, mais je ne crois pas que ce soit la bonne méthode », dit-il. Et c'est de l'anti-Manuel Valls à double titre. D'abord, c'est une façon de contredire frontalement le chef du gouvernement, mais c'est aussi une manière de dire « Bon, arrêtons d'être dans la posture, ça fait des années qu'on le dit, mais on ne le fait jamais. Essayons plutôt de faire quelque chose qui marche. Et moi, Emmanuel Macron, je vous dis que ce qui marche, ça n'est pas de légiférer sur cette question. C'est aussi ça qu'il faut entendre dans l'objection du ministre de l'économie. On est donc là dans une confrontation de plus en plus frontale et revendiquée. Et on voit mal dans ces conditions comment Emmanuel Macron pourrait rester durablement au gouvernement. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à gauche à prédire une démission dans les semaines, dans les mois à venir, sans doute avant l'été, dit un ministre. Emmanuel Macron, poursuit ce ministre, c'est la créature de François Hollande et de son conseiller Julien Drey pour freiner les ambitions de Manuel Valls. Mais il est en train d'échapper à ses créateurs. Il apparaît de plus en plus clairement, conclut-il, qu'il s'émancipe fort de sa popularité dans l'opinion et qu'il se prépare à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle.
Stéphane Robert, merci beaucoup pour cette analyse. On est en ligne avec Karine Berger, députée socialiste. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors avant de venir au fond de cette histoire de patron, d'encadrement des rémunérations, vous comprenez quelque chose, vous, à la stratégie de Macron, dans quelle mesure elle s'articule avec une volonté de François Hollande de, disons, couper un peu les ailes d'Emmanuel Valls?
Écoutez, moi ce que je retiens surtout, c'est que M. Macron ne doit pas se rappeler ce que le ministre de l'économie, qui je crois s'appelle Emmanuel Macron, a dit il y a quelques semaines en hémicycle. C'est lui-même qui a dit devant les députés, devant l'Assemblée nationale, bien peu de choses peut-être pour quelqu'un qui n'est pas élu, qu'il fallait penser à légiférer. Donc je suis un peu stupéfaite de voir...
Comment vous expliquez ça alors? Comment vous expliquez ce revirement?
parce que je pense effectivement qu'on est dans une situation de contradiction permanente politicienne de la part d'Emmanuel Macron, qu'il est très difficile quand on est dans un gouvernement de gauche d'installer une musique politique plutôt centre-droit, et qu'il va petit à petit en tirer les conséquences en s'apercevant qu'il n'est effectivement d'accord avec rien de ce que la gauche
française... Il va partir et être candidat ?
Ah, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on s'aperçoit petit à petit qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est pas de gauche, comme il a eu la gentillesse d'ailleurs de nous le préciser il y a quelque temps.
Vous avez signé donc ce matin dans Libération ce texte, ce que Libération appelle l'appel des 40 au CAC 40, c'est-à-dire que vous demandez donc que les patrons, voire leur, qu'on légifère pour que la rémunération des patrons soit limitée, vous dites, à 100 SMIC. Mais comment est-ce qu'on peut croire que les politiques, quand bien même ils le voudraient, peuvent encore agir sur cette question récurrente du salaire des patrons?
D'abord, il faut savoir qu'on l'a fait, contrairement à peut-être ce que tout le monde a en tête, la fameuse taxe de 75% qui a été mise en place au final, même si ça avait été battu par le Conseil constitutionnel dans la première version, c'était bel et bien pour limiter le salaire, les trop hauts salaires dans les entreprises. Donc on peut le faire. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Après, c'est vrai que contrairement à l'avis de beaucoup de députés socialistes, le gouvernement, dans un premier temps, a choisi de s'appuyer sur la bonne volonté de la FEP et du MEDEF avec le fameux code de bonne volonté qui ne s'est traduit par aucun résultat concret, puisque que ce soit les scandales des primes, des retraites, des parachutes dorés, des retraites chapeaux et désormais aussi des rémunérations directes des salaires du CAC 40 comme le cas de M. Ghosn récemment, il n'y a aucun responsable de grande entreprise qui a eu la gentillesse de suivre ce fameux code d'autorégulation. Donc on peut le faire.
Mais peut-être qu'Emmanuel Macron a raison, c'est peut-être pas la bonne méthode forcément, puisqu'apparemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement dans cette loi ?
Ah bah alors, très concrètement, ce qui est déjà déposé, et ce qui à mon avis sera un vrai premier pas, c'est de faire en sorte que quand les actionnaires d'une entreprise donnent un non sur la rémunération, ces actionnaires soient suivis. Je rappelle que ce n'est pas ce qui a été fait dans le cas de M. Ghosn, puisque les actionnaires de l'entreprise, les propriétaires de l'entreprise n'étaient pas d'accord avec la rémunération de M. Ghosn. Pour autant, ça n'a rien changé aux décisions du conseil d'administration. Donc on va déjà faire ça.
C'est à minima, donc suivre le conseil d'administration. Bon, c'est pas sûr qu'ils votent sans SMIC, mais enfin bon, admettons que ce soit déjà une première ligne.
D'accord, mais c'est nécessaire de légiférer. Si vous ne légiférez pas, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Et voilà. Après, si M. Macron a d'autres solutions, on est évidemment preneur pour les trouver. Après, encore une fois, quand on a mis en place la taxe à 75%, on l'a fait au final sur les entreprises pour justement mettre une pression sur les niveaux de salaire les plus fous. On peut le refaire sans problème, il y a d'autres solutions. De manière générale, si vraiment dans notre pays ou dans notre planète, d'ailleurs sur notre planète, ça choque des gens de se dire que des chefs d'entreprise pourraient être limités à 100 SMIC, on a un vrai problème de cohérence sociale et de solidarité à se poser.
Les patrons qui gagnent autant que des vedettes de cinéma, c'est peut-être parce qu'on leur demande de jouer des rôles, des comédiens, on leur demande d'avoir ce rôle de héros des temps modernes pour entretenir le mythe, la mythologie précisément de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est pas une raison de les payer ?
Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas certaine que tous les acteurs vedettes et les vraies stars historiques, et je pense aux grandes stars de Hollywood des années 50, touchaient 100 fois le SMIC, SMIC de l'époque, en tout cas l'équivalent à l'époque. Je pense même que c'est exactement l'inverse. Je crois que Marilyn Monroe notamment n'était pas si bien payée que ça, vu la façon dont elle a fini sa vie d'ailleurs. Première chose. Et deuxième chose, on est quand même pas tout à fait sur le même sujet. Là, on est sur quelqu'un qui est responsable d'une entreprise, d'une vie sociale, qui doit représenter cette entreprise, mais qui doit représenter aussi la raison sociale de cette entreprise, qui est la création de richesses, la création de valeur pour tout le monde. Et quand des inégalités de cette ampleur se forment, eh bien, on voit que c'est l'entreprise même qui est mise en danger. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que des patrons d'entreprise aient choisi d'appuyer cet appel, puisqu'il y a quand même deux chefs d'entreprise qui ont co-signé cet appel ce matin.
Karine Berger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Pour la troisième et en principe pour la dernière fois, l'Assemblée vote la prolongation de l'état d'urgence jusque fin juillet pour assurer, nous dit-on, la sécurité de l'Euro 2016 et du Tour de France.
La menace terroriste demeure à un niveau élevé. La France représente comme l'Union européenne une cible, déclarait à l'ouverture de ce débat le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il s'appuyait d'ailleurs sur des propos tenus récemment par le patron de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui s'appelle Patrick Calvar, lequel Israël affirmait devant la commission de la défense à l'Assemblée nationale que la France était clairement visée par le groupe État islamique qui pourrait, dit-il, mener une campagne terroriste caractérisée par le dépôt d'engins explosifs dans des lieux où est rassemblée une foule importante. David Ravier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous avez pu lire l'ensemble de ces déclarations du patron de la DGSI devant la commission de la défense et effectivement il y a plusieurs menaces qu'il pointe.
Lors de son audition, Patrick Calvar a cherché à mettre en garde les autorités face aux menaces d'attentats qui pèsent sur le pays. Selon lui, la France est devenue une cible de choix pour les terroristes, avec d'un côté Al-Qaïda qui cherche à revenir au premier plan, et de l'autre le groupe État islamique qui veut se venger des frappes faites par la coalition internationale dont la France fait partie. Les services de renseignement savent que le groupe État islamique prépare de nouvelles attaques contre le pays, mais à la différence des attentats qui avaient été faits à la Kalachnikov en novembre dernier, cette fois-ci, Patrick Calvar pense que les terroristes pourraient placer des bombes dans les lieux qui attirent beaucoup de monde pour faire un maximum de victimes. Une action qui pourrait être répétée pour créer un sentiment de panique et d'insécurité permanente. Et c'est ce climat de peur qui pourrait, selon lui, profiter à l'ultra-droite. Car avec la montée des extrêmes en France et dans le reste de l'Europe, le patron de la DGSI craint que si de nouveaux attentats se produisent, les minorités qui vivent en Europe soient prises pour cible par des mouvements d'extrême droite dans le but de créer des combats intercommunautaires. Enfin, si les actions menées par la coalition internationale en Syrie contre le groupe État islamique font reculer les terroristes, les services de renseignement remarquent que le pays n'est plus la seule destination pour les jeunes qui souhaitent partir faire le djihad. La Syrie serait délaissée au profit de la Libye, un pays qui traverse une période d'instabilité. Plusieurs personnes surveillées par la DGSI auraient d'ailleurs été arrêtées ces dernières semaines alors qu'ils se rendaient là-bas, ce qui laisse penser à Patrick Calvar qu'une filière terroriste libyenne serait peut-être en train de se mettre en place dans le pays.
Merci beaucoup David Ravier pour avoir donc rendu compte de ces propos de Patrick Calvar. On profite de la présence de Bruno Tertrais dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste notamment des questions proches et moyen-orientales, mais pas seulement puisqu'on parlera tout à l'heure de la dissuasion pour votre livre « Le président et la bombe ». Qu'est-ce qu'il faut penser de ces déclarations du directeur de la DGSI ?
Elles sont inhabituelles dans la mesure où le Patrick Calvar, qui parle rarement pour ne rien dire, met l'accent sur un vrai risque qui, à mon avis, est tout à fait juste de souligner, qui est le fait que Daesh cherche à exploiter la situation intérieure difficile de certains pays européens, cherche à provoquer des conflits, la guerre civile, des troubles. C'est pour ça qu'il stigmatise en particulier le risque de voir des attentats profiter, entre guillemets, à l'extrême droite pour faire encore...
Ça peut paraître fondé comme...
Ça me paraît être un raisonnement fondé. Évidemment, je ne suis pas du tout en mesure de valider ou d'invalider ce qu'il dit en termes de renseignement. Ce n'est pas mon métier. Mais je pense que c'est assez intéressant. Lui, son travail, c'est le renseignement intérieur.
Ouais, parce qu'on ne pense pas toujours au fait qu'effectivement Daesh puisse avoir des raisonnements très stratégiques de cette nature.
Oh, vous savez, ça ne va pas. Il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour dire que le chaos, on le crée en dressant les communautés, les groupes et les partis les uns contre les autres. Il n'y a pas besoin d'être un grand stratège. Alors sur la Libye.
Oui, alors justement, parce que là, il a été précis aussi. Il y a en Libye trois fronts maintenant, le front syrien, le front irakien, et puis ce front libyen qui s'est ouvert manifestement.
Là encore, il a raison, parce qu'il y a depuis plusieurs semaines déjà une modification des flux de djihadistes européens qui vont un petit peu moins vers la Syrie et un peu plus vers la Libye. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant. C'est pas une découverte totale. Ça fait quand même un bout de temps que Jean-Yves Le Drian, par exemple, le ministre de la Défense, alerte sur le fait que la Libye est devenue un hub de terrorisme, mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on
Le Drian, il disait qu'il fallait intervenir et maintenant, on n'en parle plus trop.
On en parle énormément en ce moment.
Intervention militaire des Occidentaux ?
Oui, tout à fait, notamment avec l'Italie en pays qui serait en première ligne.
Bruno Tertrais, merci beaucoup. Encore un petit mot, parce qu'il y a une dernière information internationale, c'est ce quasi-accord en Israël entre le Premier ministre et Avigdor Lieberman, qui est le leader du parti d'extrême droite Israël Beteinu, pour que celui-ci rentre dans la coalition. Ça fait 6 voix de plus pour Netanyahou, qui n'a qu'une voix de majorité à la Knesset. Est-ce que ça va changer quelque chose si M. Lieberman devient, par exemple, ministre de la Défense ?
Ça consolide très clairement la coalition qui était jusque-là assez fragile de M. Netanyahou. Il avait deux options. La consolider au centre-gauche avec M. Herzog, qui était son adversaire lors des dernières élections. La consolider à droite, c'est le choix qu'il a fait. C'est un clou supplémentaire sur le cercueil de la pauvre conférence internationale française sur la paix au Proche-Orient qui, décidément, est très mal engagée.
Voilà, Maïbel Valls arrive sur place, je crois, dans quelques heures, ou peut-être il part demain pour Israël. Merci beaucoup Bruno Tertrais. On vous retrouve dans une toute petite seconde. En Turquie, le parti au pouvoir, l'AKP, dévoile le nom de celui qui va remplacer le Premier ministre, Ahmet Davutoğlu, qui a annoncé son départ, début mai. Comme attendu, c'est un proche du président Erdogan qui est promis donc à la tête du gouvernement. Des nuages, de la pluie sur la plupart des régions, sauf sur le sud-est, grâce notamment ou à cause des vents assez forts, des températures qui ont de 14 à 23 degrés. Édition qui s'achève, réalisée avec Yacine Bouzard, et le prochain journal est à 18h avec Antoine Denecher.